Sylvie, vous avez remarqué qu'on n'avait pas parlé des responsables scientifiques et tout, mais comme vous avez tous vu, vous avez des fiches dans vos dossiers, donc vous pouvez voir avec qui les chercheurs collaborent, aussi bien dans le GIST, comme au GIST, à l'international, et vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont porteuses scientifiques du projet. Des fois, c'est elles qui nous présentent, et d'autres fois, bon, on se voit vraiment, ce sont... C'est les doctorants qui s'y collent, c'est très bien. Donc, on va parler de migration et vulnérabilité en Afrique de l'Ouest. À toi, Samy.
Très bien. Est-ce que vous auriez par hasard...
Oui, si tu as un pointeur. Là.
Le pointeur, c'est ça?
C'est ça, c'est juste
là. Très bien, parfait. Ok, parfait. C'est bon? Ah oui, c'est bon, parfait.
Non,
c'est
il y avait ma chambre.
Ça va, bonsoir, merci. Bonjour, bon, je m'appelle Rémi Généroso. Donc
alors attends, il faut que tu prennes un micro.
Ok,
c'est bon.
Bonjour, donc, je m'appelle Rémi Généroso, je suis doctorant en économie, en troisième année exactement, au CEMOTEV. Donc le projet NICLIV, hein, migration, vulnérabilité, changement climatique, et donc en fait ma thèse, donc, je suis en dernière année, sous la direction donc, de Cécile Coart, qui est professeure des universités à Paris-Dix-Nanterre, et Christophe Guilmoteau, qui est sociologue démographe, donc directeur de recherche IRD. Voilà. Donc, la présentation d'aujourd'hui sur le projet MICLIV, elle va porter plus particulièrement sur la première partie de la thèse. Donc, la thèse est subdivisée en deux parties. Une première partie macroéconomique, et une deuxième partie qui est le volet microéconomique. Alors, globalement, la thèse s'attache à étudier les interrelations entre la variabilité des précipitations en Afrique de l'Ouest vis-à-vis du processus migratoire en cours depuis la fin de la grande sécheresse au Sahel. Alors, d'un côté, on s'attache à travailler sur la variabilité interannuelle des précipitations et de l'autre sur la variabilité intra-annuelle des précipitations. Pour la question de la variabilité interannuelle, c'est la partie macro. Alors, donc le fait que la variabilité des précipitations interannuelles soit un facteur de vulnérabilité pour les économies ouest-africaines, c'était très travaillé en économie d'un point de vue théorique. D'un point de vue empirique, comme on va le voir, la question est encore office de nombreux débats. Alors, la question du processus migratoire, elle renvoie à deux phénomènes. D'un côté, le départ en migration, et de l'autre, la question de la perception d'envois de fonds. Les envois de fonds, c'est l'argent que les migrants envoient à leur famille restée dans la région d'origine. On va voir que ce processus migratoire interagit avec la question de la variabilité pluviométrique de façon à assurer les personnes qui sont restées dans la région d'origine. Alors, de nombreuses études empiriques ont mis en évidence ce lien entre fluctuation des précipitations et processus migratoire. À côté des études empiriques, il y a beaucoup d'études théoriques, comme nous le verrons par la suite, qui ont pris place surtout à la suite des années 80 avec l'arrivée de la nouvelle économie des migrations de travail. Et de l'autre, ces hypothèses sur ces questions d'interrelation, de jeu entre le processus migratoire et la variabilité des précipitations a été mis en évidence aussi dans le cadre d'un programme, un programme qui s'appelle le programme VUPOL, un programme dans lequel je suis impliqué. Donc je me suis rendu plusieurs fois sur place au Mali pour interroger des personnes sur ces questions de départ en migration, de perception d'envoi de fonds. Alors, la problématique de cette thèse, elle prend place dans un contexte climatique particulier, un contexte qui fait débat au sein des climatologues, à savoir, est-ce que on assiste aujourd'hui dans la zone sahélienne à une fin de la grande sécheresse ou une continuité de cette grande sécheresse marquée, comme tout le monde se l'accorde, par une recrudescence relative des précipitations, marquée surtout par une hausse de la composante cyclique de ces variables, de ces précipitations. Comment les ménages agricoles vont faire pour lisser leurs revenus, lisser leur consommation dans le temps face à cette hausse de la volatilité des précipitations? Alors, voici les objectifs qui sont résumés ici de la thèse. Donc, comme je viens de le dire, une analyse microéconomique des relations entre la variabilité climatique et le transfert de fonds et les performances macroéconomiques de plusieurs États situés en Afrique de l'Ouest est la question principale au cœur de cette partie, à savoir est-ce que les transferts de fonds vont constituer un moyen efficace de se prémunir contre la variabilité des pluviométriques ou est-ce qu'ils vont former au contraire un facteur de vulnérabilité supplémentaire? Parce que, comme on va le voir, la question des flux entrants de transfert de fonds est un véritable problème au niveau macroéconomique. Si au niveau microéconomique, la question sur le bien-être des individus est réglée, c'est clair, les personnes peuvent lisser leur consommation dans le temps, au niveau macroéconomique, l'impact des transferts de fonds est très très discuté. Les apports de cette thèse. Tout d'abord, c'est d'analyser la relation entre migration et climat à travers la question des précipitations. Beaucoup d'études depuis 2005-2006 se concentrent sur l'interrelation entre les performances macroéconomiques des États et la question des chocs climatiques à travers des indicateurs de choc qu'on trouve surtout dans une base de données qui s'appelle l'EMDAT, donc de l'Université catholique de Louvain, qui sont des indicateurs agrégés pour pouvoir mesurer ce qu'il y a eu choc ou pas telle ou telle année. En général, dans ces études, qui sont des études purement macroéconométriques, on intègre des variables binaires, 1 en situation de choc, 0 en l'absence de choc. Le problème lié à ces variables, c'est qu'il y a un petit problème d'endogénéité. On ne mesure pas une variable physique, on ne mesure pas une variable purement exogène, mais ce qu'on va mesurer, en fait, également, c'est la capacité de fait de résilience des individus. S'ils déclarent avoir subi un choc, c'est qu'ils étaient en état de subir un choc. On va s'apercevoir que le fait qu'on subit un choc ou pas est étroitement corrélé, par exemple, au nombre de bovins qu'on va posséder, est-ce qu'on a un attelage complet ou pas, etc., pour les populations agricoles. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre une variable, isoler une variable purement exogène. Un autre apport de cette thèse, c'est de prendre en compte une analyse dynamique par l'estimation donc, d'un modèle VAR en panel. VAR, c'est modèle à vecteur autorégressif en panel. Ce sont des modèles qui permettent de pouvoir appréhender les liens dynamiques entre les variables d'un modèle. Et là, ça répond aussi à une question justement qui fait débat dans la littérature empirique, notamment sur la question des transferts de fonds, qui se base souvent sur des études donc, de corrélation entre les variables, et donc qui ne sont pas même de prendre en compte les questions de causalité multiple. Alors, la littérature, comment elle appréhende cette relation entre transfert de fonds et migration? Donc, à partir des années 50, les premiers modèles migratoires vont expliquer la migration, notamment d'un point de vue macroéconomique, par le différentiel de salaire entre une région et une autre. Ce sont les modèles qu'on appelle les modèles à la Aristodaro, de ses auteurs. Et le problème de ces modèles, c'est qu'ils vont prendre place dans un contexte de pays plutôt développés, qui sont plus applicables par exemple à la France, etc. Mais pour des pays en développement, ça fonctionne moins bien. Dans les années 80, de nouvelles bases microéconomiques vont venir solidifier les théories globales sur la migration par l'arrivée donc de la nouvelle économie des migrations de travail. Alors, la nouvelle économie des migrations de travail, elle va faire l'hypothèse que la migration va résulter de stratégies directement formulées par les ménages pour répondre à des chocs. Ce sont des stratégies migratoires. En fait, l'idée, c'est de pouvoir gérer le risque. Ce risque, il est géré exempté avant le choc ou est ex post. Pour ce faire, la famille va passer avec le migrant un contrat migratoire, un contrat implicite, en échange de financer les coûts de la migration. Le migrant s'engage à verser par la suite des transferts de fonds, de l'argent tous les mois, tous les ans, ou, comme on le verra, en cas de choc. Alors, les études empiriques par la suite ont montré que la migration, comme résultante de gestion des risques, elle prend place dans un contexte qui n'est pas marqué par la hausse de la migration dès qu'il y a un choc. La migration a un coût. Et pour répondre à ce coût, il faut pouvoir déjà avoir un certain revenu. Alors, d'un point de vue empirique, les tests, il y en a eu beaucoup, et beaucoup sur la question de la stratégie de gestion des risques s'accordent, notamment sur le Madley. Findlay, en 1994, donc pour les chiffres, trouve que 63% des ménages maliens dépendaient des transferts de fonds pendant la grande sécheresse, et que sur ces 63% de ménages dépendant des transferts de fonds, 47% recevaient des transferts de fonds des migrants en France et 16% des villes d'Afrique subsaharienne. Clark et Walston, en 2004, vont montrer que, pour le cas de la Jamaïque, les transferts de fonds ont tendance à augmenter lors d'un événement climatique. Gupta, en 2004, également, va montrer que les sécheresses ont un impact positif sur les montants de transfert de fonds perçus par les ménages restés dans la région d'origine. On a également Rata, en 2006, qui va montrer que les transferts de fonds ont tendance à augmenter lors de catastrophes naturelles pour le Bangladesh, Haïti et la République dominicaine. Donc d'un point de vue micro, les choses sont assez cadrées. D'un point de vue macro, la question fait plus débat. Alors, pour citer quelques auteurs, on a notamment en 2008 Bugamelli et Paterno qui, je cite, disent « Malgré un large panel d'études théoriques, les études empiriques restent en retrait et se sont plus spécifiquement axées sur les interactions entre croissance, inégalité et pauvreté, laissant le champ de la stabilité macroéconomique sous-investi. » Donc là, il y a un vrai problème actuel. La question des transferts de fonds et de leurs répercussions sur les économies n'est pas encore très bien cerné. L'hypothèse de base, c'est l'hypothèse qui a été formulée par le FMI en 2005, selon laquelle, je cite, « la relative stabilité et nature contracyclique des transferts de fonds suggère que les pays ayant accès à un niveau significatif de remise devraient être moins vulnérables au choc. » Or là, les tests empiriques sont très partagés. Là, vraiment, il y a des avis très positifs comme des avis très négatifs. Pour les avis très positifs, Rocher et Pelletier, en 2008, vont expliquer que ces transferts de fonds sont utilisés par les ménages à des fins de consommation. Une très faible partie est épargnée et investie. Mais, selon eux, il y a quand même un effet positif sur la croissance, par un effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'en fait, malgré cette consommation, malgré le fait que rien ne soit très peu, est investi mais beaucoup, est consommé, il va y avoir stimulation en fait, du commerce de détail et qui va par la suite engendrer une hausse de la production. Ça, c'est un premier point de vue. Un point de vue qui est aussi défendu par Lowell et de la Garza en 2000. Mais parallèlement à cette vision positive, les défenseurs de la nouvelle économie des migrations de travail, pour beaucoup, comme Hazan et Gubert en 2002, vont dire qu'en fait les transferts de fonds peuvent avoir des effets qui sont très négatifs sur les économies. Ces effets négatifs, en fait, ils s'expliquent par le fait que les transferts de fonds peuvent induire plus de coûts que de bénéfices. Si on prend en compte que les transferts de fonds sont envoyés en cas de choc sur une économie, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que cette hausse de la consommation va passer par une hausse des importations, plus que par une stimulation du commerce. À l'intérieur même du pays, parce qu'en fait, finalement, les capacités de production ne sont pas mêmes de répondre à la nouvelle demande. La limite des études théoriques est surtout empirique. Alors, pour la question théorique, les choses sont plutôt bien cadrées, comme je l'ai dit, mais donc au niveau des études empiriques. Il y a peu d'études qui se concentrent sur la question des chocs climatiques, des transferts de fonds et des performances macroéconomiques. On a d'un côté des études qui vont se concentrer sur la question des performances macroéconomiques vis-à-vis des chocs climatiques. De l'autre, on va avoir la question des transferts de fonds, d'accord, et des chocs, mais on n'a pas toute cette chaîne de causalité réunie au sein d'une même étude empirique. La question de la causalité multiple. Pour certains, donc, certains auteurs trouvent qu'on va avoir une relation, par exemple, procyclique entre le PIB d'un pays et les transferts de fonds. D'autres vont trouver qu'on va avoir une relation contracyclique. Pour certains, ça signifie qu'on envoie plus de transferts quand la condition macroéconomique dans un pays est favorable. D'accord ? Donc là, on a une logique, en fait, d'investissement. Les migrants vont investir. De l'autre, quand c'est une relation contracyclique, on va dire que les transferts de fonds sont liés à des comportements altruistes. Les migrants vont envoyer des fonds pour répondre à une situation de choc dans le pays d'origine. Le problème, c'est que ces études sont basées sur des corrélations et ne vont pas prendre en compte le fait que une question de procyclicité entre le PIB et les transferts de fonds sont liées simplement au fait que le PIB est très dépendant de l'afflux de transfert de fonds. Cette critique a été mise aussi en avant par Bugamelli et Paterno qui disent qu'il faudrait avoir des modèles plus économétriques avec vraiment une vision de la causalité entre les variables. Autre critique, qu'on peut adresser à la littérature empirique, c'est la critique que j'ai formulée tout à l'heure, précédemment. Les chocs climatiques sont approximés par des indicateurs agrégés. Ces variables binaires que j'ai mentionnées, elles ont le problème de l'endogénéité, elles ont aussi le problème que quand on approxime par une variable binaire 1 ou 0, finalement, la question du temps, la question de la mesure, elle est difficile à appréhender. On a 1 en cas de choc, 0 en cas d'absence de choc, mais après, quelle est la magnitude ? Donc pour répondre à ces questions méthodologiques, on a défini un cadre, un cadre qui est de plus en plus employé depuis 2-3 ans dans les études macroéconométriques, qui à la base en fait sont des modèles de finance. Ce sont des modèles donc à vecteur autorégressif en panel. Donc selon une méthodologie ici qui est proposée donc par Inès Alov et Zikino en 2006, qui sont en fait de la Banque mondiale. Donc j'ai contacté pour avoir plus de détails sur les questions méthodologiques. Alors, un modèle à vecteur autorégressif, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait ? L'idée, c'est de pouvoir mesurer par simulation l'ensemble des liaisons dynamiques entre les variables qui composent un modèle. Le modèle, admettons qu'on ait une variable y1, on peut avoir y2, y3, ainsi de suite, nous on mettra 5 variables, elle est expliquée par une matrice d'opération des retards, d'accord, sur ces mêmes variables, y1, y2, et ainsi de suite, à laquelle on ajoute un vecteur d'effet individuel, pour prendre en compte l'effet fixe, et puis bien sûr les erreurs du modèle. Donc, dans ce type de modèle, toutes les variables sont considérées comme endogènes. À la base, avant qu'on interprète les résultats, tout est considéré comme endogène. Donc en fait, on a ici un modèle économétrique qui est purement athéorique et qui permet souvent de tester des modèles théoriques qui ne peuvent pas être testés autrement que par de la simulation. Alors, comment on interprète les modèles VAR, PVAR, dans notre cas. Alors, l'interprétation de ces modèles est assez complexe si on s'en tient aux résultats issus directement des coefficients estimés. Donc, pour ce faire, on passe par une analyse donc, de fonctions d'impulsion, ce qu'on s'appelle les fonctions impulsionnelles, en anglais Impulse Response Function, IRF, et la décomposition de l'erreur de prévision de la variance. Qu'est-ce que c'est donc ? Les fonctions impulsionnelles, elles vont permettre d'évaluer les effets de chacune des variables sur les autres si on simule un choc sur une variable. Alors je prends une variable y1, je vais voir comment elle va réagir à un choc simulé sur une variable y2. D'accord ? Donc il y a plusieurs types de fonctions impulsionnelles. Nous, on choisit de prendre des fonctions impulsionnelles de type orthogonal, où on va ajouter un écart-type donc aux innovations du modèle, c'est-à-dire tout ce que le modèle ne peut pas expliquer. Alors, les fonctions impulsionnelles, elles sont basées sur les résultats estimés du modèle. D'accord ? Elles nous permettent d'indiquer le signe, l'ampleur et la persistance des réponses d'une variable à un choc sur une autre. La décomposition de la variance, on va dire décomposition de la variance pour faire court, c'est décomposition de l'erreur de prévision de la variance. Alors, elle permet de calculer la contribution de chaque innovation à la variance de l'erreur sous forme de pourcentage. D'accord ? Ça va nous permettre de calculer, grosso modo, si on prend 5 variables dans notre modèle, quelle est la contribution de chaque variable sur une autre variable. C'est une mesure de la sensibilité. D'accord ? Donc, pour rappel, l'innovation, la définition la plus classique et la plus standard, c'est la partie non prévisible d'un processus et d'en donner les observations dont on dispose. Les variables. Quelles variables on prend en compte ? Donc, tout d'abord, les transferts de fonds. D'accord. Le PIB, parité de pouvoir d'achat, les importations totales agricoles par tête, Alors, si on prend les importations agricoles totales par tête, c'est parce que pour les pays qu'on va étudier, on n'a pas l'importation des biens alimentaires, en fait. On va devoir passer par un petit artifice théorique pour pouvoir séparer qu'est-ce qui est de la consommation de première nécessité de consommation donc autre. La valeur ajoutée agricole par tête, d'accord, et les précipitations. La période, donc là il y a une erreur, c'est 1980 à 2009, et pas 1990-2009, excusez-moi. D'accord. On prend 13 pays africains regroupés en zone climatique. Alors, évidemment, les données climatiques, elles sont très précises, on va avoir des données extrêmement fines. Ici, elles ne le sont pas. Elles ne peuvent pas l'être parce que, finalement, les données qu'on a au niveau économique, elles sont extrêmement grossières. Il était impossible pour moi de trouver quelque chose qui a un meilleur pas de temps que l'annuel. J'ai même essayé de contacter la Western Union pour avoir des transferts de fonds, des données sur les transferts de fonds en trimestriel, impossible. Pareil pour le PIB, il y a même des années manquantes. Donc là, il faut contacter directement, c'est assez difficile. Donc il m'a fallu prendre des données en précipitation interannuelle. Bien sûr, je le dirai après pour les prolongements, on verra pour l'intra-annuel. Donc, le découpement par zone climatique, il est déjà assez grossier, mais on verra que même avec un découpage comme celui-ci, on trouve des résultats assez probants. Le panel A, c'est l'ensemble de tous mes pays. D'accord ? J'ai 13 pays. Ce sont tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, où je n'avais pas de données manquantes. Donc, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. J'ai pris le Bénin. J'ai rajouté à ces pays 3 autres pays, donc le Soudan, le Kenya et l'Éthiopie. Là, vous les voyez ici. Le panel B, ce sont donc les pays en fait qui sont plutôt marqués par un climat de type soudano-guinéen, plutôt côtier. Et le panel C, les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire un climat plutôt de type sahélien sud et sahélien nord. Alors, d'accord. Pour estimer les résultats, on va passer donc à chaque fois par une. On va regarder d'abord donc les résultats issus de la décomposition de la variance, puis ensuite des fonctions impulsionnelles. J'ai mis. Pardon. Alors, tout d'abord, donc le degré d'exposition au choc pluviométrique. Donc ici, on va voir quelle est la sensibilité, d'accord, hein, de la valeur ajoutée agricole, donc de la somme des richesses créées dans l'agriculture et du PIB, la contribution de la pluviométrie. Et ensuite, on va avoir les fonctions de réponse, donc une analyse en fonction de la réponse, donc au choc. Pour le panel A et pour le panel B, on voit qu'on a des résultats assez proches de la contribution des chocs, d'accord, pluviométriques sur la valeur ajoutée agricole et sur le PIB. Mais regardons pour le panel C, on voit que les chocs pluviométriques expliquent près de 30,7%, d'accord, des variations, d'accord, de la valeur ajoutée agricole. Quand on regarde sur le PIB, c'est 14,85%. Alors, cette répercussion sur le PIB, en réalité, c'est aussi parce que lorsqu'on a un choc sur le PIB, hein, le PIB est très sensible dans ces pays à la valeur ajoutée agricole. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est lié, hein, qu'est-ce qui est dû à cette variation. Est-ce que c'est parce que c'est l'expression d'une sensibilité du secteur agricole aux précipitations, ou c'est parce que la part du secteur agricole dans le PIB est très importante? En fait, on trouve que c'est surtout la vulnérabilité ou la sensibilité, on va dire jusqu'ici, de la valeur ajoutée agricole aux précipitations qui explique ce PIB important. La réponse au choc. Un choc d'un écart-type sur l'erreur, on ajoute un écart-type sur l'erreur, d'accord, de prévision de la pluviométrie. Pour le panel C, on voit que la valeur ajoutée agricole, immédiatement, sans aucun décalage, réagit à hauteur de moins 4,27%, ce qui est vraiment conséquent. Le PIB, moins 1,5% immédiatement. C'est énorme. Hein, très important. On voit que pour le panel A et le panel B, c'est plus modéré. Alors, voilà les fonctions impulsionnelles. En haut, ici, donc là, panel B pour la valeur ajoutée agricole, panel B pour le vide ici, panel C pour la valeur ajoutée agricole, panel C pour le PIB. On voit donc cette réponse immédiate qui est ici négative, réponse immédiate négative pour l'ensemble des panels. Par contre, ce qu'on remarque, c'est ça. L'année, au cours de la deuxième et la troisième année qui suivent le choc sur les précipitations, on voit que la réponse, d'accord, de la valeur ajoutée agricole et la réponse du PIB deviennent a priori positives. Regardons par contre ici pour le PIB, cette réponse, elle est statistiquement significative, compris entre les bornes des erreurs, ici hein, en pointillé. Et par contre, là ici, elle n'est pas significative. L'augmentation ici n'est pas significative. Elle est ici. Et là, ça a des implications assez importantes sur les transferts de fonds. Regardons tout de suite. Réponse des transferts de fonds à un choc pluviométrique. Panel A, panel B, panel C. Elles augmentent toutes deux, entre la deuxième et la troisième année, après l'occurrence du choc sur les précipitations, à hauteur entre 8% et 10%. Voilà. Vous avez ici la réponse. Donc ici, on a une réponse. Déjà, on a une première réponse importante. Les transferts de fonds, ils sont exposés. Ça répond à une grande question dans la littérature. Alors, maintenant, la question centrale pour nous, c'est de savoir, suite à ce choc pluviométrique, est-ce qu'on observe un effet de stabilisation des transferts de fonds, plutôt un effet de dépendance? Alors là, les résultats montrent, là c'est les résultats qu'on a déjà vus précédemment, maintenant on va voir la réponse, la contribution des transferts de fonds. Donc là ici vous avez la contribution, hein, l'explication de la variance, et là vous avez les réponses impulsionnelles. Regardez ici la réponse impulsionnelle, d'accord, la réponse de la valeur ajoutée à un choc positif sur les transferts de fonds, augmentation des transferts de fonds. Elle est de plus 1,85%. Par contre, pour le PIB, je n'ai pas noté, parce qu'en fait, elle n'est pas significative. C'est-à-dire qu'un choc positif sur les transferts de fonds n'a pas d'impact sur le PIB, quel que soit le panel de pays considéré. Ce résultat, il nous indique qu'en fait, on a un faible effet multiplicateur des transferts de fonds sur le PIB. Très faible effet multiplicateur. Alors la question, c'est est-ce que c'est de l'autoconsommation. Est-ce que quand on reçoit plus de transferts de fonds, les personnes autoconsomment? D'accord. En fait, non. Tout simplement parce que quand on regarde la réponse des importations des totaux agricoles vis-à-vis de la hausse des transferts de fonds, on s'aperçoit qu'on a une augmentation immédiate de quasiment 13% suite à une augmentation des transferts de fonds, d'accord, un choc d'un écart type. Et l'année suivante, pour le panel C, on voit une diminution à fur et à mesure en fait, que le choc sur les précipitations, sur les transferts de fonds, va se diluer. Vous voyez ici, à gauche. Donc on a vraiment l'expression en fait, d'une dépendance au transfert de fonds. Et cette dépendance au transfert de fonds, elle montre bien qu'on a un effet multiplicateur qui est faible, et donc l'importation de biens de première nécessité. Donc voici quelques éléments de conclusion, je vais aller très vite. Donc, premier résultat, les chocs pluviométriques ont un impact négatif sur la valeur ajoutée agricole et positif sur les transferts de fonds. L'impact du choc pluviométrique sur la valeur ajoutée agricole, elle est atténuée par les envois de fonds. Donc là, on met en avant le rôle contracyclique des envois de fonds. Ensuite, l'impact positif des transferts de fonds sur les importations agricoles, elle s'exprime notamment par une forte exposition à la variabilité climatique pour les économies les plus marquées par un climat aride. Et ensuite, on met bien en évidence, et ça c'est le point central, que les transferts de fonds peuvent constituer ce qu'on appelle à court terme une source de vulnérabilité cachée. Donc au niveau macroéconomique, par le biais de l'augmentation des importations en biens agricoles de première nécessité. Bon, je ne vais pas aller plus loin.
Voilà, je vous remercie. Discussion.
Voilà, je vous remercie.
Merci Rémi.
des réactions.
Merci beaucoup. Une question qui me vient en tête, c'est que la dévaluation du franc CFA, parce que c'est une zone de franc CFA, quel est l'impact sur les emplois?
Je réponds tout de suite.
Oui.
Alors, ouais, la question du franc CFA, donc les années 94-95, pour pouvoir voir quelles étaient l'influence sur les transferts de fonds, sur le PIB, etc., donc dans notre modèle, on a fait donc des tests de rupture structurelle. On a essayé de voir si dans nos séries, on avait des ruptures structurelles à certains moments. On n'avait pas des ruptures structurelles pour tous les pays, même ceux qui ont subi la crise du franc CFA. Donc, on a choisi de... Enfin, j'ai préféré laisser cette date-là. D'accord ? L'impact du franc CFA en termes de transfert de fonds, elle est importante. Elle est très importante. On a une augmentation claire des transferts de fonds. En fait, à vrai dire, les transferts de fonds, ils répondent à différents types de chocs. Ils répondent aussi à des chocs même de type interne, crise politique, ils peuvent répondre à des chocs de type externe. Le problème, par exemple au Mali, en 2001, on a une vraie sécheresse, on a une année vraiment très marquée par une sécheresse, en tout cas du moins, les données de l'Université catholique de Louvain montrent sécheresse, et on a aussi la crise du coton. Comment différencier quelle est la contribution de chacune, de chaque choc? C'est justement ça en fait. Quand on prend la décomposition de la variance, comme j'ai montré, on va s'apercevoir que les précipitations, résultat estimé du modèle, expliquent tant de pourcents de la variance, d'accord ? Ça veut dire que le reste du pourcentage est expliqué par d'autres chocs. Ça nous permet donc d'avoir une vision relative. D'accord ? Donc c'est sur la sensibilité de l'ensemble de la période. Donc du coup, c'est très difficile de pouvoir isoler tel type ou tel type de choc.
D'autres réactions, Serge ?
Oui, merci. Oui, j'avais une petite question sur votre analyse des chocs pluviométriques. En fait, peut-être que la période sur laquelle vous travaillez n'est pas suffisante, mais dans ces zones-là, il y a une forte persistance interannuelle sur plusieurs années. C'est-à-dire, est-ce que les résultats que vous montrez du choc pluviométrique est lié à une année, une anomalie pluviométrique sur une année, et est-ce que vous avez regardé s'il pouvait y avoir un effet cumulatif, par exemple sur la 3 années dans les années 80, il y a eu au moins 3 années 82-84 qui étaient très sèches, est-ce que l'effet est linéaire, non linéaire, la répercussion de ce type de choc sur plusieurs années?
D'accord. Merci pour cette question. Alors en fait, là les résultats que j'ai présentés, donc c'est du court terme. L'analyse de sensibilité, ça va être un choc, ça va être la réponse en fait du modèle, la sensibilité sur l'ensemble de la période considérée. Par contre, j'ai aussi dégagé d'autres fonctions impulsionnelles par réponse cumulée, qui permettent en fait d'avoir une vision de la réponse des variables cumulées sur un horizon de 2, 3, 4, et ainsi de suite, plusieurs années. D'accord ? Et là, il faut encore que je continue un petit peu à travailler parce que c'est peu évident. Comme on a ce problème des chocs qui se cumulent entre eux, il est très difficile de pouvoir voir en fait la contribution, par exemple, des transferts de fonds à la croissance en fonction de l'occurrence de chocs pluviométriques. Puisque effectivement, la réponse est non linéaire. Comme il y a d'autres chocs qui viennent affecter, au bout d'un moment, en fait, au niveau du long terme, mes résultats, d'un point de vue statistique, vont se mettre à diverger. Donc là, il va falloir en fait que je mette plusieurs variables de contrôle pour pouvoir mesurer cet effet en fait, hein, donc des précipitations. C'est une question que je suis en train en fait de me poser, c'est de trouver mathématiquement quelque chose qui puisse le résoudre. Mais effectivement, quand on a plusieurs années d'inflexion des transferts de fonds, finalement, le modèle sur le long terme va avoir tendance à se biaiser justement en fonction de ça. Il marche très bien pour le très court terme, ce sont des modèles de finance, il marche un peu moins bien pour le long terme. Voilà pourquoi je toujours précise à court terme.
Je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il est possible de faire des études de cas?
Par exemple, vous prenez 82-84, de faire des études de cas plus approfondies pour voir, essayer de mesurer l'effet de cette persistance.
Voilà, alors ça, ce sera la deuxième partie en fait de la thèse. Je vais prendre le cas en fait, du sud du Mali, la zone coton, faire une étude comparée entre l'ancien bassin cotonnier et le nouveau bassin cotonnier, donc je me suis rendu sur place. Et donc pour mesurer vraiment l'espace, alors je ne vais pas prendre 82, 84, etc. Je me réserve plutôt sur la période 90 à aujourd'hui, pour mesurer vraiment l'effet de hausse de la variabilité des précipitations. Et donc en fait là l'idée c'est de vraiment voir comment la stratégie migratoire interagit avec le décalage interannuel de la saison des pluies sur les départs en migration, sur la perception de transfert de fonds et sur la capacité des personnes à, du moins à gérer leur endettement. On voit qu'il y a une région où en fait les personnes ont, elles s'endettent mais arrivent à gérer leur endettement. La migration augmente, les départs. En échange, a priori, ils arrivent à pouvoir garder leur équipement agricole. On est une autre région, il n'y a pas de migration. Il y a pas mal d'aménagements collectifs. Par contre, les personnes sont très endettées et doivent revendre leur actif agricole. Donc là, c'est vraiment une étude de cas centrée sur l'effet vraiment de la variabilité intra-annuelle. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions à l'heure du déjeuner sur ces affaires. Et maintenant, je passe à d'autres chocs, les chocs sanitaires. Donc, on va parler de méningite. La zone sahélienne est une zone de ceinture de méningite. Et ce genre de maladie, ce n'est pas seulement les microbes, l'état sanitaire de la population, mais c'est aussi l'environnement, la température, l'humidité, et aussi ce qu'on va voir là, les aérosols désertiques. Béatrice.
Oui, donc je vais vous présenter l'état d'avancement du projet ATSEM qui s'intéresse à l'impact des aérosols désertiques sur les